Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, monsieur, bonjour. À la une, la clôture hier à Kindu de la première édition de la conférence provinciale sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau. Les participants ont testé l'état des lieux de ces secteurs et formulé des recommandations pour une meilleure gestion. Des détails dans ce journal. Au Tanganyika, il y a eu un incendie hier de plus de 500 huttes sur le site déplacé du village Mamakasanga. Le feu s'est réparti dans le lieu de cuisson d'aliments. Les dégâts matériels sont considérables pour ces ménages déjà démunis. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'en est à déplorer. Et François Aliki, directeur exécutif de l'ONG EDER ASBL, est notre invité. En marge de sa participation à la conférence sur l'agriculture tenue au Maniema, il appelle ses pairs humanitaires à intégrer la question de l'environnement dans leurs actions. Bienvenue à cette édition qui part du Maniema avec la fin ce vendredi de la première édition de la conférence provinciale sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau. Après 3 jours de travaux, les participants ont dressé l'état des lieux de ces 4 secteurs clés et formulé des recommandations en vue d'améliorer leur gestion pour le développement de la province. Ils ont également mis en lumière ses énormes potentialités ainsi que son rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Cette conférence s'est clôturée par la lecture de recommandations. Sur le plan de l'agriculture, par exemple, les participants encouragent la culture pérenne, c'est-à-dire café, cacao et palmiers à huile. Ils ont aussi recommandé la réhabilitation des centres de production des semences. Sur le plan de l'environnement, un accent particulier a été mis sur le renforcement de la protection des forêts, de la biodiversité et des rivières. Au sujet du tourisme, ils ont reconnu que la province regorge plusieurs sites susceptibles d'attirer les visiteurs. Il faut donc le réaménager ou le réhabiliter. Concernant les secteurs de l'eau, les participants ont noté qu'il faut faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement un pilier du développement durable avec réhabilitation des ouvrages, l'extension des services et protection durable des sources. L'initiateur de ce forum, le gouverneur de province Moussa Kabwankoubi, a salué toutes ces recommandations et indique que...
Avec ces vastes forêts, ces savanes et ces ressources hydriques abondantes, le Maniema dispose d'atouts considérables pour contribuer significativement à la lutte contre le changement climatique et promouvoir un développement durable basé sur une gestion responsable de ses ressources naturelles.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Réforme du secteur agricole en République démocratique du Congo, la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable de l'Assemblée nationale a examiné et adopté hier une proposition de loi modifiant les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Cette initiative parlementaire est portée par la députée Marie-Claire Kengo. Elle vise notamment à introduire la notion de produits agricoles stratégiques considérés comme des leviers essentiels de planification et de priorisation du développement agricole national. Des détails dans cet élément de Grâce Amzati rendu ici par Jean Gandou.
Les membres de la commission ont procédé à un examen approfondi des dispositions légales avant d'adopter les articles modifiés. À travers cette innovation, le législateur entend orienter les investissements vers les chaînes de valeur les plus porteuses, encourager la transformation locale et renforcer la compétitivité des produits congolais sur les marchés régionaux et internationaux. À en croire la commission, en instituant cette catégorie, la RDC affirme son ambition de bâtir une économie agricole solide, fondée sur la sécurité alimentaire, la valorisation des ressources nationales, la diversification des exportations et la création d'emplois. Cette dynamique vise également à renforcer la formation professionnelle, à générer davantage de richesses et à accroître la résilience du pays face aux crises économiques, sanitaires et géopolitiques. Conformément à l'article 123 de la Constitution, cette réforme s'inscrit dans la vision du secteur agricole moteur de la croissance inclusive et du développement durable au cœur de la politique nationale de souveraineté économique. La Commission souligne que cette loi vise aussi à promouvoir la croissance de la production agricole, garantir la sécurité alimentaire, soutenir le développement rural et industriel et renforcer les filières agricoles d'intérêt stratégique.
Cap sur la province du Tanganyika avec l'incendie hier de plus de 500 huttes sur le site déplacé du village Mamakasanga, c'est à 10 kilomètres de la ville de Kalemi. Selon des témoins, l'incendie est survenu alors qu'une femme faisait sa cuisine. Les dégâts matériels sont considérables pour ces ménages déjà démunis. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'en est à déplorer. Le point avec Paula Monaka.
Une casserole d'huile se serait renversée sur les feux au moment où une femme était en train de préparer de la nourriture et les flammes se sont répandues comme une traînée de poudre, rapporte des sources locales. Plusieurs biens de valeur appartenant aux déplacés de la guerre venus du Kivu sont partis en fumée. De nombreuses familles se retrouvent sans abri. Un témoin rapporte les faits.
Heureusement, aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. De nombreux biens de valeur ont été détruits. Les réfugiés du camp sont originaires du sud Kivu, où les conflits armés et les violences ont entraîné le déplacement de nombreuses personnes. Les conditions de vie dans les cas sont déjà précaires et cet incendie ne fait qu'aggraver la situation.
D'après des sources locales, les déplacés du site du village Mamakasanga dans le territoire de Kalemi nécessitent une assistance humanitaire en urgence. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et d'autres personnes qui ont besoin d'une aide urgente se trouvent au Nord Kivu. Il s'agit notamment de plus de 40 000 déplacés qui vivent actuellement dans une détresse aiguë dans le groupement de Walu Aluanda, territoire de Walikale. Ces familles ont fui des affrontements et ont opposé de mercredi à hier vendredi des combattants de l'F-123 aux forces armées de la RDC, appuyées par une coalition de Wazalendo. Théâtre des combats, la localité de Chungoutier, dans le groupement de Ziralo au sud Kivu, c'est à la frontière avec le territoire de Massissi au nord Kivu. Bernard Denyangui nous décrit la situation.
Selon les sources administratives locales, les déplacés proviennent de plusieurs villages et de groupements de Ziralo au sud Kivu, notamment Tshunguti, ainsi que du Famandu Premier, territoire de Massissi au nord Kivu. Depuis trois jours, ils affluent vers Walu Aluanda, dans le territoire de Walikale. Ils ont trouvé refuge dans des écoles, églises et familles d'accueil, des villages de Biriko, Kirambo, Busurungi et Ombo. Cependant, faute d'abri suffisant, une partie de ces personnes passent les nuits à la Belle Étoile, témoignent plusieurs sources locales. De nouveaux combats ont éclaté mercredi soir dans cette zone située à cheval entre le groupement des Ziralo et Ufamandu Premier. Jeudi, des sources concordantes indiquent que les combattants de l'F-123 ont brièvement occupé Tshunguti avant de se replier vers Lumbishi. Depuis vendredi, la localité est repassée sous contrôle des FARDC et des Wazalendo. Malgré cette reprise, une grande partie de la population des deux groupements hésite encore à retourner dans leur village, craignant une reprise imminente des hostilités. La société civile de Calais et de Massissi appelle les autorités ainsi que les organisations humanitaires à une intervention d'urgence pour assister ces milliers de familles déplacées.
Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps au Kasaï central ont provoqué l'inondation du pont en construction sur la rivière Katusenga dans le territoire de Demba. Cette situation a entraîné la coupure du trafic sur ce tronçon de la route nationale numéro 41 qui relie Kananga à Ilebo. La société civile locale appelle le gouvernement central à intervenir pour la reprise des travaux arrêtés depuis plus d'un mois. André Katendenga Lamouloumi fait le point.
Depuis mercredi dernier, la traversée de la rivière Katusenga est devenue difficile. En cause, les pluies diluviennes qui s'abattent dans la région ayant entraîné l'inondation de la passerelle provisoire installée par l'Office des routes en charge des travaux de construction du pont. Selon Marcel Massankar, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans les territoires de Demba, les travaux sont à l'arrêt depuis plus d'un mois. Les véhicules ne peuvent plus passer, tandis que les conducteurs des motos sont contraints de payer au moins 5000 francs congolais pour se faire aider par des jeunes des villages environnants.
C'est une grande difficulté pour la population. Pour faire passer une moto, il fallait avoir au moins 7000 francs, 5000 francs. Les transporteurs de charges à vélo, communément appelés Bayanda, font là-bas plus de 6 heures. C'est un engouement total sur cet axe.
Marcel Massanka sollicite l'implication du gouvernement central pour la reprise des travaux afin de rétablir la circulation sur la route nationale numéro 41 reliant Kananga au territoire d'Ilebo. Signalons que ce pont fait partie des 4 autres financés par le gouvernement central dans les territoires de Demba dans le but de remplacer les ponts des fortunes par des infrastructures durables. Kananga, André Katendenga Lamoulume, Radio Okapi.
Merci André Katende. Et puis ces statistiques au Kasaï oriental, seuls 35% d'enfants sont enregistrés à l'état civil. Ces chiffres ont été annoncés jeudi à Mbushima au cours d'un atelier de suivi des engagements pour l'accès gratuit d'actes de naissance au bureau de l'état civil, travaux organisés par le réseau La Voix des Oubliés, appuyé par l'ONG Save the Children. Selon les organisateurs, cela se justifie par l'absence de registre d'enregistrement des enfants à l'état civil en milieu urbain. Par contre, en milieu rural, 80% de bureaux disposent de ces registres. Face à cette situation, le gouverneur de province interpelle les parents et autres acteurs œuvrant dans la protection des enfants au respect des droits de ces tout-petits. Le gouverneur Jean-Paul Mbouiboui, au micro des journalistes de la radio-télévision Fraternité Buena Amuntu.
Le taux d'enregistrement de naissance reste très faible au Kassai oriental, car selon l'enquête mixte ERC 2017-2018, 35% d'enfants seulement disposent d'un acte de naissance et pourtant l'enregistrement de naissance à l'état civil est effectivement un droit fondamental pour chaque enfant. Selon la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, tout enfant a le droit d'être enregistré à l'état civil dans les 90 jours qui suivent sa naissance. Et cela est gratuit. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller tous les acteurs dans la protection de l'enfant, notamment les parents qui ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant soit traité avec humanité. De sa part, l'État doit veiller à ce que la discipline soit dans les établissements scolaires, les institutions de garde privées agréées, et public de telle manière que le droit de l'enfant soit respecté.
En Ituri, les FARDC appuyés par la MONUSCO ont lancé jeudi des opérations contre la milice Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, dans les zones de Loda et Fataki, en territoire de Djougou. Un bilan provisoire fait état d'un militaire FARDC tué, 15 miliciens capturés et 22 armes récupérées. Les casques bleus se sont également déployés pour sécuriser les sites déplacés dans la zone. Isaac Raymond.
Les menaces de la milice CRP se sont intensifiées ces derniers jours dans les localités de Loda, Fataki et Boulé, situées à environ 100 km au nord de Bouni, en territoire de Djougou. Pour faire face à cette situation, les FARDC ont lancé une opération contre ces groupes armés. Selon des sources sécuritaires, des affrontements ont été signalés depuis jeudi matin entre Fataki et Loda ainsi que dans les zones de Boulé et K. Au cours de ces combats, un soldat FARDC a été tué. 15 miliciens ont été capturés et 22 armes récupérées. À ce stade, les éléments de la CRP serait en débandade et en repli dans la zone. De son côté, la MONUSCO a intensifié ses patrouilles robustes, notamment au carrefour Loda Djaïba, afin de bloquer les mouvements des combattants. L'objectif est de protéger les sites déplacés de Loda, régulièrement menacés par cette milice qui accuse ses occupants de collaborer avec les FARDC. Par ailleurs, une autre unité de casques bleus a été déployée vers Boulé pour renforcer la protection des civils. Ces patrouilles ont contribué à dissuader les groupes armés et à renforcer la sécurité des populations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous restons en Ituri. La désinformation et les violences numériques touchent de plus en plus des femmes et de jeunes filles. À Bounia, chef-lieu de cette province, la MONUSCO a organisé vendredi une journée d'échange avec une soixantaine de participantes. Objectif, alerter sur les dangers liés aux réseaux sociaux et aux violences numériques, un phénomène en pleine expansion. C'est un reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Photos intimes diffusées sans consentement, fausses informations, manipulations sur les réseaux sociaux. Cette rencontre organisée par la section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO se voulait un cadre d'éveil et de prise de conscience. Célestine Diria, elle, dit avoir découvert la face cachée des réseaux sociaux.
Je ne savais pas qu'est-ce qui est une information numérique. Je suis allée aussi comprendre que l'intelligence artificielle peut aussi modifier d'autres photos. Ma sensibilisation, ça sera sur la bonne utilisation des téléphones, que cela ne soit pas des publications inutiles, des films pornographiques, tout comme ça.
Face au danger de la désinformation et à ses conséquences sur la sécurité publique et la vie privée, la MONUSCO insiste sur la nécessité de protéger les données personnelles. Jean-Toby Okala, responsable de l'information publique à Bounia.
Il fallait attirer leur attention que la meilleure façon de lutter contre ces nouveaux phénomènes, eh bien, c'est la protection de sa vie privée. Si chacun faisait attention à ce qu'il diffusait, aux images qu'il envoie, qu'il propage, je pense qu'on pourrait lutter efficacement contre ce phénomène.
Un appel à la responsabilité collective pour freiner la propagation de la désinformation devenue aujourd'hui un véritable défi de société. Bounia, Jean-Claude Doki, Guilé, Radio Okapi.
Et dans la ville de Bénion-Nord-Kivu, l'insécurité reprend du terrain et inquiète de plus en plus. Depuis plusieurs semaines, des hommes armés ciblent des quartiers entiers pendant la nuit, multipliant cambriolages, vols et tirs. Une situation qui perturbe le quotidien des habitants. Des détails avec Martial Papi-Moukeba.
Les cas les plus récents remontent à la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs ménages ont été visités par des hommes armés. Au quartier Tamende, dans la commune de Moulekera, par exemple, des maisons ont été cambriolées. Selon la société civile locale, les assaillants ont emporté une somme d'environ 1000 dollars américains avant de tirer des coups de feu pour couvrir leur fuite. Même scénario au quartier Mambango, dans la commune de Bungulu, où au moins 8 ménages ont été inquiétés. Des biens des valeurs, notamment de l'argent, des téléphones et des motos ont été emportés. Nasson Mourara, porte-parole de la police à Beni, affirme que des dispositions sont déjà prises pour mettre fin à cette situation.
La police est en train de travailler pour que la sécurité soit une réalité. Il y a d'autres stratégies qui sont en train d'être montées. Au niveau de la ville, nous avons déjà nos éléments qui sont sur le terrain, nos services qui sont à pied d'œuvre pour maîtriser tous les fauteurs de troubles qui sécurisent la ville.
Au sein de la société civile, des voix s'élèvent pour plaider en faveur du renforcement des patrouilles et des opérations de bouclage ciblées en fait d'identifier les porteurs d'armes dans certains quartiers de la ville. Beni, Martial Papi-Moukeba, Radio Okapi.
Nous allons en dehors du pays, en dehors de la République démocratique du Congo, en place à l'actualité internationale.
Actualité internationale.
Présidentielle au Bénin, dernier jour de campagne hier à Cotonou pour Paul Oumpé et Romuald Ouadani. Dimanche, les Béninois sont appelés à élire le successeur de Patrice Talon au pouvoir depuis 10 ans. Sur les bulletins de vote, ces deux noms-là donc, Romuald Ouadani, dauphin du président sortant, et Paul Oumpé, candidat du parti FCBE. L'opposition plutôt modérée. En scrutin sans le principal parti de l'opposition, les démocrates, dont la candidature a été invalidée par la commission électorale.
L'invité.
Il s'agit de François Likio, directeur exécutif de l'ONG Action d'identification de développement des efforts de la reconstruction et d'RSBL. En marge de sa participation à la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau dans la province du Maniema, il appelle ses pairs humanitaires à intégrer la question de l'environnement dans leurs actions. François Likio s'entretient avec Laurence Kizalunga.
Pasteur François Alikoyo, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, tout le monde parle de la protection de l'environnement. Pourquoi, selon vous, les humanitaires doivent intégrer la question de l'environnement dans leurs actions?
Merci beaucoup, madame, pour la question. On parle aujourd'hui de l'environnement et pourquoi nous, les humanitaires, nous devons intégrer l'environnement dans notre action. On doit l'intégrer parce que pour nous, l'environnement, nous le prenons comme un thème transversal. Parce que tout ce que nous faisons comme action, cela a des impacts ou peut avoir des impacts négatifs sur l'environnement. Prenez par exemple, nous intervenons sur les crises et les crises qui deviennent chroniques dans l'est de la République, notamment par exemple ici dans votre province au Maniema. Nous avons jusqu'à près de 400 000 personnes déplacées rien qu'à cause des conflits et il faut ajouter à cela plus de 100 000 personnes affectées par les aléas climatiques. Et lorsqu'il y a ce besoin humanitaire, nous on est invités à intervenir. Et dans nos interventions, nous pouvons faire des distributions, construire des abris. Et quand nous aidons la communauté à construire des abris, ils doivent couper les arbres, ils doivent faire ceci, ils doivent chercher du sable, ainsi de suite. Et puis, ce sont des interventions qui, d'une manière ou d'une autre, ont un impact sur l'environnement. C'est pourquoi, dans le plan des réponses humanitaires 2026, l'environnement, en tant que thème transversal auprès d'autres thèmes transversaux comme le VIH, la protection et tout, la protection transversale, il est demandé. Demander à nous, en tant qu'acteurs humanitaires, dès que nous concevons le projet, il faut déjà penser à des mesures pour réduire les impacts négatifs de nos interventions sur l'environnement. Donc, pour nous, l'intégration de cette question de l'environnement est systématique. Dans la planification, c'est systématique. Dans l'exécution des projets, c'est systématique. Et même dans les suivis, quand le bailleur vient, il fait les suivis et il veut savoir si nous avons intégré effectivement cette question de l'environnement. l'environnement dans nos interventions.
Monsieur François, c'est à quel niveau que vous pensez que les acteurs humanitaires violent aussi cette question?
Ah, une très bonne question, madame. Nous, les acteurs humanitaires, nous ne violons pas cette question. Et je dis plus haut ici, nous intégrons cela dans nos planifications, dans ce que nous faisons. Mais le problème, c'est du côté du gouvernement qui doit se rassurer aussi si nous appliquons ce que nous avons planifié. C'est pourquoi nous insistons sur la coordination avec les autorités. Nous, on ne viole pas, mais ce sont les autorités parfois qui voient que nous ne faisons pas assez.
Quelle est la part de responsabilité des autorités pour prendre les leads de toutes ces questions?
Bon, les autorités doivent d'abord jouer un rôle important au niveau de la coordination, parce que pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? Il y a une faiblesse au niveau de l'anticipation. Il y a, par exemple, la protection civile qui doit anticiper, qui doit mettre de plans de contingence, nous inviter à travailler avec eux. Et s'ils jouent déjà ce rôle de coordination, ça va être facile pour eux d'intervenir aussi et de nous accompagner quand nous mettons nos projets en œuvre et de voir est-ce qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'environnement. Et après, revenir après au niveau de la redevabilité pour savoir est-ce que vous avez fait ça ou vous n'avez pas fait ça?
Qu'est-ce que vous faites quand vous observez qu'il y a une violation de cette question de l'environnement, vous en tant qu'humanitaire en pleine action?
Bon, nous en tant qu'humanitaire, nous sommes confrontés le plus souvent à des défis, à dire qu'est-ce que nous faisons. Nous voyons par exemple que à cause du réchauffement, à cause de la déforestation, à cause de ceci, de cela, il y a par exemple des inondations à répétition et nous venons intervenir sur les conséquences. Et alors, avec des moyens limités que nous avons, nous n'arrivons même pas à couvrir tous les besoins. C'est pourquoi nous insistons sur l'anticipation et qui va renforcer la résilience des communautés qui sont affectées.
Alors, en tant qu'humanitaire, quel message aux autres humanitaires et à la population par rapport à la protection de l'environnement?
Ce que je vais dire aux autres humanitaires est que l'environnement, c'est une question de tous. C'est une responsabilité collective à nous tous d'intégrer systématiquement la question de l'environnement dans nos interventions à partir de la conception, la mise en œuvre et le suivi. Et à la population, ce que je dirais, c'est que la population doit se sentir responsable de tout ce qui se passe dans son environnement, en commençant par une gestion responsable de déchets et l'utilisation responsable des ressources.
Pasteur François Alikoyo, je vous remercie.
Je vous remercie, madame.
François Alikoyo, directeur exécutif de l'ONG EDER ASBL. Merci de l'attention accordée à ce jour. Babel Pongo Massiango vous l'a présenté avec l'apport de Jean-Claude Sia à la côté technique et Jean Gandou à la supervision. Bon après-midi.